Radio Grenouille. Radio Grenouille.
Deuxième mission spéciale sur la grenouille autour du festival Actoral, sixième du nom. Après la création théâtrale contemporaine au Japon, on va s'intéresser aujourd'hui aux écritures ou aux écrits de la danse. Une des caractéristiques d'Actoral, c'est en effet de croiser les champs des écritures dans l'espace scénique, de décloisonner les pratiques de l'écrit, du geste, de la parole, des arts plastiques, pour ouvrir d'autres pistes d'interprétation et d'espace possible. Cette année, un partenariat entre Actoral et Marseille Objectif Danse offre un temps fort aux écrits de la danse dans la programmation du festival, et ce temps fort permet de présenter plusieurs variations sur le mode des rapports entre l'écriture et le mouvement. On va, au cours de cette émission, en aborder quelques-uns avec les chorégraphes Georges Apex, Sabine Maché, Martine Pisani, un auteur, Yves-Noël Genot, et Josette Pisani, directrice de Marseille Objectif Danse. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Hiroaki Umeda, Umeda-san, qui proposera demain 9 octobre une pièce intitulée Duo Accumulated Layout, devait aussi être des nôtres, mais pour l'instant, il est entre deux avions. Tant pis. Pour commencer cette discussion, les écritures de la danse, c'est, je le rappelle, le fruit d'un partenariat entre Actoral et Marseille Objectif Danse, le début en fanfare d'une 20e saison pour cette structure de création et de diffusion dédiée à la danse contemporaine. Josette Pisani, au cours de ces 20 ans, quels ont été les axes forts de la programmation de Marseille Objectif Danse ?
Les axes forts, je dirais, s'articulent autour de la diffusion de spectacles de danse contemporaine. Alors, je peux pas. Il n'y a pas des axes forts, il y a un axe fort qui est la diffusion, autour duquel s'articulent un certain nombre d'autres actions, d'autres actes, comme la coproduction de spectacles, la formation professionnelle, et aussi tout un travail de diffusion autour de cinéma, de vidéos, qui sont autant d'entrées dans ce qu'on appelle le champ de la danse contemporaine. Par rapport à la présentation que vous avez faite des personnes qui sont invitées aujourd'hui, Yves-Noël Genot, qui est présent dans cette édition, est aussi metteur en scène et chorégraphe. Il vient de présenter un spectacle, donc le terme auteur était... C'est pas qu'il est réducteur.
Et les autres sont aussi auteurs, ça lui
voilà.
Donc, difficile de trouver un terme, évidemment, un peu générique.
Disons que, oui, voilà, ils sont tous auteurs aussi, bien sûr. Voilà, je voulais repréciser ça.
Peut-être pour reparler de mode, Marseille Objectif Danse, est-ce qu'il y a une esthétique mode ?
Non, il n'y a pas d'esthétique mode. Je crois qu'il y a plutôt une proposition, il y a un regard sensible sur la création contemporaine, d'une manière générale, et bien sûr sur la danse contemporaine. Donc on ne prétend pas à l'exhaustivité, parce qu'il y a énormément de projets qui, en France notamment, mais aussi à l'étranger, qui sont proposés chaque année. Non, on offre, je pense, un parcours un peu peut-être singulier, qui est notre vision. Une vision, en tout cas, de la danse contemporaine.
Une programmation des écritures de la danse qui a commencé dans le cadre de ce festival Actoral avec une pièce de Deborah Hay, lecture sur une performance de Beauty. Deborah Hay est repartie aux États-Unis, mais Josette, peut-être quelques mots pour évoquer cette personnalité, grande personnalité du monde de la danse et son travail.
Alors, je vous reprends, c'est pas les écritures de la danse.
Les écrits de la danse.
Voilà, les écrits de la danse. Pour en revenir à Marseille Objectif Danse, nous ne programmons pas suivant des thèmes. Je pense que là, il y avait quelque chose. Les écrits de la danse, c'est une. On a un peu cherché un titre au partenariat avec Hubert Collat et Actoral, donc. Partenariat d'ailleurs qui a commencé il y a quelques années. Hein. Et donc le titre qui était un peu la signification de ce partenariat, puisqu'il s'agit d'un festival international des écritures contemporaines. Bon, on a intitulé la programmation danse, les écrits de la danse. Mais c'est, je pense, ça va au-delà de ça. En tout cas, dans les actions de Marseille Objectif Danse, on ne programme pas par thème. Alors pour en revenir à Deborah Hay, Deborah Hay est une chorégraphe donc américaine, comme vous l'avez dit, qui fait partie de la génération ce qu'on a nommé les postmodernes américains, donc qui a travaillé très sous influence de John Cage dans les années 60-70, qui a travaillé dans la compagnie de Merce Cunningham pendant quelques années. Et tous ces chorégraphes qu'on a appelés les postmodernes, donc Steve Paxton, Trisha Brown, etc., ont fondé un mouvement qui s'est fondé au Jason Theater à New York. Et Deborah Hay est une des fondatrices de ce qu'on nomme un mouvement, qui n'est pas vraiment un mouvement non plus. Hein, c'est plutôt une rupture par rapport à Merce Cunningham et aux portes qu'il avait ouvertes. C'est-à-dire, c'est des entrées différentes que chacun de ces artistes de ces années-là a fait. Donc, Deborah a travaillé très très longtemps assez seule après ces années-là. Elle a beaucoup tourné dans des universités. Et depuis quelques années, elle explore le solo. Donc, l'année dernière, nous avions invité Deborah Hay pour deux solis, dont A Lecture on the Performance of Beauty, qu'on a repris cette année. C'est un peu une occasion parce qu'elle était revenue cette année pour donner un stage. À la demande express de tous les stagiaires qui avaient fait ce stage l'année dernière, ils voulaient à tout prix continuer ce travail qui est un travail assez complexe. Je ne vais pas développer ici parce qu'il faudrait un livre, je crois, pour en parler. Mais l'occasion était trop belle. Elle avait un peu de temps, donc pour qu'elle redonne ce solo dans Actoral. Je pense que ça allait très bien parce que Deborah est partie de ce solo Beauty qu'elle avait fait en 2003 et elle a écrit le texte qu'elle dit pendant le solo, je crois que vous l'avez vu, après avoir fait le solo dansé. Actuellement, cette pièce est un tout, c'est-à-dire on ne pourrait pas parler de la vidéo, de la captation de 2003, puis la captation de 2002, puisque les deux vidéos sont des captations de ces deux solis, et du texte. Je crois que c'est un tout qui donne sur scène une performance, une vraie performance.
Les écrits de la danse, on va tout au long de cette émission accueillir plusieurs variations sur ces rapports et ces articulations entre l'écrit et la danse. Une question en tout cas du rapport à l'écriture qui est en filigrane des pièces de Georges Apex depuis longtemps. Georges, tu as présenté les 4 et 5 octobre dernier un solo qui est intitulé « Question de goût ». Et pour la première fois, tu prends le risque d'écrire toi-même le texte. Un texte qui est parfaitement en phase avec ta danse, comme une conversation avec les spectateurs, où langage verbal et langage non-verbal se complètent.
Oui, enfin pour moi c'est du langage verbal du début à la fin, mais simplement il y a un changement d'interlocuteur. De temps en temps ça s'adresse au public, de temps en temps on a l'impression que ce personnage s'adresse à lui-même ou bien encore à quelqu'un d'extérieur, donc l'interlocuteur change, mais c'est toujours, je pense, c'est toujours quelqu'un qui parle.
En tout cas, dans ce spectacle, une dimension de plaisir évident, de plaisir d'être là et de plaisir partagé.
Oui, c'est une question. Tout ça, c'est une question.
C'est une affirmation.
C'est une question de goût, tout ça.
C'est
ça,
ressenti.
Moi, j'aime bien le plaisir. Enfin, je ne crois pas que ça soit que ça me soit particulier, mais je trouve que c'est important dans le travail qu'on fait. Je trouve que le plaisir est important et le plaisir partagé, si possible. Bon, ça, c'est pas toujours possible, mais donc trouver le plaisir du travail déjà, trouver ensuite le plaisir de la représentation aussi, pour moi c'est quelque chose d'essentiel.
Une question de goût, en tout cas c'est l'affirmation de soi, d'une subjectivité, c'est peut-être aussi l'affirmation d'une certaine solitude.
Je sais pas,
c'est un solo.
Oui, subjectivité, oui certainement, puisque c'est quelqu'un qui parle de sa manière de concevoir l'instant sur scène et aussi l'instant avant d'être sur scène, c'est-à-dire il est à la fois interprète et chorégraphe ou metteur en scène, ce personnage. J'ai pas envie de parler de moi à la troisième personne, mais c'est en même temps il est un peu à côté de moi, il est pas tout à fait, donc De temps en temps, c'est un interprète, de temps en temps, c'est un chorégraphe. Donc, il parle très simplement de ça. Donc, il se place dans cette situation-là de chercher quoi faire.
Écrire sur soi, il y a quelque chose d'autobiographique dans ce spectacle, et même d'une manière générale, dans beaucoup de spectacles que tu crées et que tu proposes. Est-ce qu'il faudrait dire écrire sur soi ou plutôt écrire par soi ? Au travers de soi.
Non, c'est pas écrire sur soi, je crois. Enfin, c'est plutôt écrire sur quelque chose qui a pris une grande part dans ma vie, qui est de faire ce travail. Et c'est plutôt ça, c'est-à-dire essayer d'écrire simplement et sincèrement, si possible, sur ce travail et qui prend en général beaucoup de place dans nos vies, mais qui, moi, personnellement, n'est qu'une partie de ma vie. Mais une partie importante.
Les gestes et les paroles se continuent les uns les autres dans cette pièce, question de goût, mais est-ce qu'il t'arrive parfois de vouloir traduire l'un par l'autre ? C'est-à-dire, par exemple, traduire une parole par un geste. Je reviens à cette idée de langage non-verbal dont on parlait au début.
Oui, ça passe par ça, effectivement. Mais moi, j'aime bien, justement, j'essaie de ne pas m'enfermer à un endroit, de n'être jamais au même endroit, si possible. Donc, il y a des moments où le geste illustre ce qui est dit, et puis il y a d'autres moments, enfin, j'espère en tout cas, le geste est autonome, et plutôt en rupture ou en dissociation. Donc, j'essaie de passer par des rapports différents entre le geste et le mot. Et tout ça parce que pour moi c'est source de mouvement. Ici, il ne faut pas que les gens sur scène qu'on puisse leur mettre une étiquette sur le front. On ne sait pas trop où ils sont. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus riche. Donc j'essaie de me placer différemment selon les moments.
Question de goût, un spectacle qui commence par un Q. En effet, la nomenclature de tes spectacles, Georges, suit l'alphabet. On en est à la lettre Q. Ça suppose que le prochain spectacle devrait commencer par un R. Un R de quoi ?
Je ne sais pas. En tout cas, oui, ça, le prochain spectacle s'appelle « Rien que cette ampoule dans l'obscurité du théâtre ».
On l'attend avec impatience. On continue dans quelques secondes à explorer ces écritures de la danse. En attendant, on écoute Noriko. C'est joli, à venir bientôt, le 11 octobre exactement, Kelien Zo au Nijal. Les mouches volent, c'est une proposition de Sabine Maché. Sabine, la danse et l'écriture, deux pratiques complémentaires chez toi, presque une dizaine de livres publiés à ce jour. Et en danse, comme interprète ou chorégraphe, je crois que tu connais bien Georges Apex, avec qui tu as travaillé, et puis aussi Martine Pisani. Peut-être une première question, comment est-ce que la danse et l'écriture s'articulent dans ton travail ? Est-ce que ce sont deux voies complètement parallèles, ou est-ce que ce sont des parallèles qui parfois se rejoignent ?
Non, c'est plutôt des correspondances. C'est-à-dire, l'un va assez bien avec l'autre et l'un permet l'autre, mais c'est pas du tout pareil.
C'est-à-dire que la danse te laisse du temps pour écrire, que l'écriture te laisse de l'énergie pour la danse ? C'est la complémentarité,
ouais,
c'est un peu comme ça que ça marche ?
C'est un peu comme ça que ça marche, oui.
Alors sur cette pièce, Kelien Zo au Nijal, je crois que c'est du breton. Pourquoi ce titre et pourquoi en breton ?
Si je vous explique vraiment pourquoi ce titre, ça va durer très longtemps. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais Disons que c'est une phrase que j'ai trouvée dans un manuel d'apprentissage de breton, dans les premières leçons, et c'est « des mouches volent ». Et ça, je me suis attachée à cette phrase parce que, bon, d'abord, je suis toujours un peu attirée vers les insectes. Comme je vois pas qui c'est qui dirait, enfin, j'ai jamais pensé que j'apprendrais le breton vraiment, d'ailleurs.
C'est curieux en tout cas que la première phrase d'un manuel de conversation en breton commence par la phrase les mouches volent.
C'est l'article indéfini. Donc voilà, je m'imagine arriver en Bretagne, il y a des mouches volent. En tout cas, voilà. Mais je suis allée en Bretagne, mais personne ne. Enfin bon, disons que j'ai même pas essayé de le placer. Non, mais il y a des cochons peut-être qui volent plutôt. Il faudrait que j'apprenne le mot cochon. Mais bon.
S'il y a des cochons, il y a des mouches.
Il y a beaucoup de cochons en Bretagne, mais je ne les ai pas vus et je n'ai pas vu de mouches. Et de toute façon, chaque fois que je... Enfin, voilà, comme je disais aussi ce matin, je suis une artiste de la Biennale. C'est-à-dire, en fait, moi, je joue tous les deux ans, une fois, et il n'y a jamais de mouches. Peut-être en 2009, il y aura des mouches.
En tout cas, dans le spectacle que tu proposes, s'il n'y a pas de mouches, il y a beaucoup de sons. Le son a une place très importante. Est-ce qu'on peut parler d'écriture sonore ?
En fait, moi, c'est plutôt une tentative d'accueil. Il y a beaucoup de choses qui arrivent et un peu comme disait Martine ce matin, j'essaie à la fois d'être souple avec les choses qui arrivent et donc à la fois choisir un peu mais en même temps aussi beaucoup se laisser faire. Donc il y a beaucoup de gens qui parlent mais j'essaie pas de vraiment organiser les... enfin si j'essaie d'intervenir un petit peu mais c'est pas vraiment très écrit, c'est un peu comme ça peut mais le tout et l'idée. Il n'y a pas vraiment d'idée. Justement, c'est plutôt une envie d'absence d'idée, d'absence d'intervention aussi. Il n'y a pas grand-chose à voir, à part ce qu'on donnera à voir ensemble. L'idée, c'est plutôt qu'on se trouve ensemble, comme dans une salle d'attente, pendant un temps précis, en venant d'endroits différents, avec des intentions complètement différentes, et voir ce qui, dans ce moment-là, se partagera. Mais je ne sais pas, je sais pertinemment que je ne pourrais rien maîtriser de ce que ressentiront, trouveront ou non les gens qui viendront. Ce que j'essaie de faire, par contre, c'est de les installer dans une situation qui me paraît la plus agréable. Et moi, j'aime bien, quand je vais dans des spectacles, en fait, penser à moi plutôt que d'être pris par le propos. Donc, voilà, je voudrais que ce soit un endroit où les gens puissent à la fois penser à ce qui les occupe et se laisser traverser par quelques...
Le plaisir avec Georges Apex, une situation agréable avec Sabine Maché. Sabine, à défaut d'écriture sonore, la poésie est évidemment extrêmement présente dans ce spectacle, comme d'ailleurs presque dans tous ceux des participants de cette émission, des participants de ce festival actoral. Peut-être sur cette présence de la poésie, est-ce qu'on peut dire que la poésie c'est au texte, que la danse est au geste ?
Moi en fait, honnêtement, j'ai jamais envie de trouver des formules comme ça. Parce que je ne les comprends pas vraiment et j'y crois pas du tout. Mais par contre, ce qui est complètement au même niveau que l'écriture et que je pense aussi comme on travaille souvent en danse, c'est que je travaille par fragmentation et ça, le son le permet aussi bien que la phrase. Et donc aussi comme cette phrase « des mouches volent » qui vient de Nijal, qui d'abord est aussi un peu difficile à prononcer. Ce qui est aussi une façon de, à la fois, ouvrir à du son et en même temps rendre un peu muet, parce que les gens, ils n'arrivent pas à répéter le titre. Disons que je pense que la musique ou moi, ce qui me plaît dans ce qui c'est se construit dans ce qui s'entasse au fur et à mesure avec la profusion des sources et des sons. C'est que les fragments, forcément, il y a une fragmentation. Voilà. Et donc les mots, et ça c'est un principe de création contemporaine et de poésie. Mais...
Tu m'expliquais que ce spectacle a été en fait écrit en 2003. 2003, on se souvient, c'était l'année presque de la Révolution, en tout cas des grandes grèves des intermittents. Il y a peut-être quelque chose d'ailleurs qui reste de cette ambiance-là, un peu particulière dans ton spectacle. Peut-être c'est l'occasion d'une réflexion à partager entre tous, là, autour de cette table, sur la situation, justement, de la danse contemporaine, et peut-être aussi l'opportunité de brasser les publics au travers de festivals comme Actoral. Peut-être sur la situation de la danse aujourd'hui.
Je crois que le brassage des publics est complètement... le projet Marseille Objectif Danse... l'a posé d'emblée. Le fait que Marseille Objectif Danse ne veuille pas un lieu de diffusion ou enfermer la danse dans un lieu, c'est-à-dire à dérouler d'emblée sa programmation dans des lieux différents à Marseille, qu'il se soit des théâtres, des musées, des cinémas, des parcs, au gré des projets et des nécessités des chorégraphes ou des artistes invités, je crois que ça s'est posé dès le départ. Et que le festival, je voudrais quand même repositionner un peu les choses, le festival Actoral est partenaire précieux, mais que le festival, effectivement, ça nous permet aussi d'atteindre peut-être des publics mais que nous avons déjà, sur lesquels nous travaillons déjà pas mal, parce que, très curieusement, les publics que nous touchons, les premiers cercles, comme on dit, très curieusement, ne sont pas ceux vraiment de la danse. Ça peut vous paraître étrange, mais c'est les premiers cercles ont été tout de suite des écrivains, des poètes, des plasticiens. Évidemment, des danseurs contemporains. Mais la danse, pas vraiment. Le ballet, ce qu'on appelle le ballet, ou le néoclassique, ou le hip-hop, ou etc., c'est pas ces publics-là, finalement, qu'on a atteint d'emblée. Et je crois que la force, c'est pas les axes forts, mais une des forces du projet, c'est d'avoir posé ce déroulement d'une programmation dans des lieux différents qui ont immédiatement, et très naturellement, croisé les publics et fait venir des publics à la danse qui n'étaient pas au départ acquis. Enfin, les publics ne sont jamais acquis. Il n'y en a pas qu'un aussi, il y en a plusieurs. C'est vrai qu'Actoral est aussi une opportunité de faire rebondir toujours, faire résonner cette idée-là toujours plus loin. Mais je finis là-dessus. La programmation danse DENSE de ce début d'automne correspond effectivement à un temps fort qui voulait marquer les 20 ans de Marseille Objectif Danse, avec des artistes qui ont été invités déjà dans la programmation. Tous les artistes présents là, et ceux qu'on n'a pas comme Jonathan Burrows, par exemple, qui n'arrive que demain, ou Déborah, ont tous déjà été invités par Marseille Objectif Danse à la programmation. Voilà.
D'autres réactions autour de cette table, peut-être sur la situation.
Et par rapport à la situation de la danse contemporaine, c'est gravissime ce qui se passe, parce que justement, on s'intéresse, peut-être on est un peu dans des zappings, c'est-à-dire que beaucoup de gens créent, ils diffusent très peu. Il y a très peu de malgré le nombre de structures de diffusion ou les scènes nationales, puisque le réseau c'est surtout les scènes nationales. Il y a très peu de diffusion, en fait. Hein. Parfois, voilà, on en parlait tout à l'heure, 3 mois de création, 2 dates, et puis c'est terminé.
Vous partagez ce sentiment, Martine Pisani?
Le sentiment, c'est qu'en général... Enfin, on a la chance de tourner pas mal les pièces, mais souvent, on joue une fois ou deux fois. Et ça ne permet pas au travail de se développer. Et c'est vraiment avec le public qu'on peut avancer. Voilà. On ne fait pas ça pour avoir une belle vidéo à la fin.
Georges, peut-être sur cette question, sur la précarité des domaines de la danse, ce n'est pas le seul art qui soit dans une situation difficile, hein, bien sûr, mais peut-être.
Oui, c'est une espèce de précarité au carré, parce que la danse a toujours été un peu comme ça, contenue, maintenue dans un petit coin au fond, à droite. Et puis. et comme la situation globale se précarise du spectacle vivant et de l'art contemporain en général, évidemment la situation de la danse suit en amplifié, si on veut. Voilà, moi c'est mon point de vue.
On va peut-être maintenant, si vous voulez bien, aborder une autre proposition dans ce registre des écrits de la danse, c'est celle d'Yves-Noël Genot, un texte qui peut apparaître dans un spectacle de multiples manières. Eh bien, Yves-Noël Genot en expérimente quelques-unes dans Monsieur Vilovitch, chuchoté, lu, chanté, éructé, en fait tout sauf dit. C'est ça, Yves-Noël ?
Ah oui. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est plus intéressant d'avoir des extrêmes que d'avoir une soi-disant diction normale pour moi. Et aussi, je dois dire que je viens du théâtre et pour moi, il y a eu vraiment un rapport au texte qui simple, qui a été beaucoup exploré par des gens qui sont là, justement par Georges Apex ou d'autres gens. Qui fait que moi, je ne peux pas me permettre de faire ça maintenant parce que ça a beaucoup été fait avec beaucoup d'art. Et venant du théâtre, je me dois de faire des choses plus théâtrales. Donc, je demande aux acteurs de pousser les choses de manière plus spectaculaire. Ouais.
La proposition que tu présentes pour cette 6e édition d'Actoral est un peu le contre-pied, on pourrait dire, enfin en tout cas extrêmement différente de celle que tu avais présentée l'an dernier, Domaine de la jalousie.
Non, vas-y.
Alors, oui. Alors, justement, puisque Josette intervient, je voulais dire sur cette notion d'auteur qu'on a définie en disant on est chorégraphe, auteur, tout ça, et finalement tout le monde. Josette Pisani est aussi auteur en tant que programmatrice. Mais c'est plus rare qu'on pense que des programmateurs soient auteurs. C'est-à-dire qu'en effet, il y a la programmation des 20 ans de Marseille Objectif Danse. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on peut attendre d'un auteur. C'est-à-dire une vision, un choix. Elle disait qu'elle ne visait pas l'exhaustivité. Ce n'est pas du tout ça. C'est justement une direction, quelque chose de très personnel. Elle le fait à partir d'elle-même. Et donc, il y a en effet une cohérence qui est de l'ordre de quelque chose qui appartient à la notion d'auteur. Il y en a moins qu'on pense. Hein.
En tout cas, le spectacle que tu proposes, Yves-Noël...
C'est autre chose que l'année dernière.
Voilà.
Tout à fait.
Revenons à nos moutons.
Autant si on présente deux années de suite quelque chose dans la même ville, autant essayer de faire en effet quelque chose qui soit... J'étais aidé par le lieu parce que le lieu est très magnifique, très vaste. C'est vraiment une taille de scène, européenne. Et j'avais jamais eu ça, et donc ça permettait de faire un spectacle beaucoup plus visuel, tandis que l'année dernière, un tout petit lieu permettait de faire un spectacle beaucoup plus intimiste, et du coup avec un texte. Enfin, c'est très particulier dans mon corpus aussi.
Un spectacle que certains auront peut-être pu trouver provoquant, c'est pas mon cas d'ailleurs, ou en tout cas une provocation extrêmement modérée et avec énormément de tendresse. C'est vraiment ce qui m'a frappé dans ton spectacle. C'est justement le respect, et peut-être quelque chose de particulier, c'est le naturel. Il m'a semblé que c'était un spectacle extrêmement naturel, même la lumière de ce spectacle est naturelle. Et est-ce que ça te convient de dire que c'est un spectacle au naturel ?
Ah oui, j'espère toujours faire des choses qui se rapprochent de la nature, c'est ce qui est le plus beau, quoi. Et là, en effet, il y a cette lumière naturelle qui vient des verrières, du fond, qui forme un contre-jour immense, c'est splendide absolument, la lumière est splendide. Et ça a permis qu'on aille plus loin que d'habitude dans une mise à nu, sans doute, parce qu'ils sont nus, mais aussi ils font des choses un peu plus violentes des fois, ou qui pourraient être choquantes, mais qui ne sont pas du tout, qui pourraient être provocantes, mais que je trouve qu'ils ne sont pas, ou en tout cas qui sont violentes, certainement quand même. Il y a un thème qui est racisme qui est venu comme ça. Mais à cause de cette beauté naturelle de la lumière, ce bain, ils avaient confiance à aller un peu plus loin dans des choses plus difficiles. Ouais.
Un spectacle où l'écriture scénique est particulièrement travaillée. Est-ce qu'on peut vraiment parler là d'écriture scénique comme
oui.
forme d'écriture ?
Ah bah oui. Les metteurs en scène, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font de l'écriture scénique, oui. Oui, oui.
Et là, particulièrement, tout se joue dans l'espace.
Oui, c'est, moi, je fais que de l'espace, oui, bien sûr. Oui. Je n'ai pas les moyens jamais de faire des décors, mais sinon, je ferais des décors.
C'est juste une question de manque de moyens, ou c'est une volonté?
Non. C'est d'abord une question de manque de moyens, mais après, on réussit à inventer une nouvelle manière de travailler, une manière de travailler très vite. Par exemple, alors, il y a des astuces, il y a des choses qui sont inventées. Par exemple, de considérer les lieux dans lesquels on vient comme des décors. Quand on est arrivé, on n'a pas changé un meuble, pas une chaise, l'emplacement. J'ai dit, c'est comme si un grand décorateur avait choisi exactement ça. Donc, tout était marqué au sol et on a fait à partir de ça. Mais c'était un ready-made. Hein? Et puis, voilà, du coup, ça permet de gagner du temps et de travailler comme dans un décor tout de suite, quoi.
Même la poussière,
j'ai demandé, on ne lave pas, parce qu'avec ce contre-jour, la poussière est magnifique au sol. Il y a une épaisseur de la poussière, comme une photo de Man Ray, ou je sais pas.
Tout est réel dans ce spectacle, le monde réel, effectivement, des travestis, des gros beaufs, des bruits de travaux. Bref, on se croirait à Marseille, quoi.
Ben, c'est ça qui est étonnant, c'est que c'est en effet très, très contextualisé, oui. Enfin, moi, j'adore Marseille, je veux dire.
Tu vis à Paris, je crois.
Je vis à Paris, mais chaque fois que j'y viens, c'est une ville dure quand on n'y travaille pas, je trouve, quand j'y venais sans travailler. Mais dès que j'y travaille, c'est d'une telle sensualité, une poésie intense, énorme, partout, dès qu'on sort dans la rue, que c'est vraiment très, très fort. Moi, j'ai fait mes deux spectacles les plus importants ici, en fait, hein, celui de l'année dernière et celui ici. C'est les deux spectacles où je me suis vraiment étonné. Parce que je ne pensais pas aller si loin, et ça s'est fait à Marseille, oui. Après, il y a assez peu de public, mais c'est, je comprends ça aussi en même temps, parce que la ville est tellement chargée de dehors, chargée de splendeur naturelle. C'est, voilà, le théâtre ou la danse est une part de quand même un monde qui est très, 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 très intense, quoi.
Un spectacle, en tout cas, qui laisse la part belle au hors-champ.
Oui. On a fait ce spectacle dans une. On a eu la chance d'avoir la salle un peu plus longtemps, en 8 jours de plus. Et il y avait un chantier permanent. On montait une exposition dans le hall, là, qui s'est fini maintenant, le hall de la cartonnerie. Et ça ne gênait en rien le travail. Mais c'était des bruits épouvantables, des chantiers. Enfin, ça changeait tous les jours, mais c'était énorme, un hors-champ énorme. Et on a fait le spectacle dans une pureté, un travail avec les acteurs très, très fins. Donc des fois hurler, hein, c'est pour ça qu'il en reste des traces, et des fois des hurlements d'insultes, etc. Mais du coup, quand je suis revenu que le chantier était fini, on a demandé à des gens qui travaillent le son, et on a eu beaucoup de chance à rencontrer des gens comme Eric Bilabert, qui est très, très fin, de refaire un son d'une manière complètement autonome. Donc ils étaient libres de travailler seul, je donnais quelques notes à la fin, mais j'agissais pas sur les moments, il fallait avoir un réalisme le plus fort d'un hors-champ permanent, urbain.
Du hors-champ au hors-sujet, il n'y a qu'un pas. Notre conversation peut-être s'égare, et c'est tant mieux. Le hors-sujet ou le bel ici, c'est le titre du spectacle de Pisani. Il sera donné les 10 et 11 octobre à La Friche, dans quelques secondes, juste après une petite coupe musicale. Vous êtes sur les 3-8, seconde émission spéciale consacrée au festival Actoral et à la programmation conjointe d'Actoral et de Marseille Objectif Danse autour des écrits de la danse. Martine Pisani, je l'évoquais à l'instant, un spectacle qui est intitulé Le Hors-Sujet, ou Le Hors-Sujet ou Le Bel Ici, c'est le titre complet du spectacle. Peut-être quelques mots sur ce titre, ce qu'il recouvre, et puis aussi sur votre rapport à l'écriture.
Alors, je vais décortiquer le titre. Ça commençait par hors sujet. Parce que
je crois qu'on a un petit problème de micro. Martine, je t'invite plutôt à prendre celui-ci qui devrait marcher un petit peu mieux.
Voilà, ça va.
Celui-ci, alors, l'orange.
Donc, hors sujet, bon, c'était l'occasion. C'était dans le cadre d'un hors série à Montpellier. Et j'en ai profité pour l'appeler hors sujet, pour y injecter des choses qui me plaisaient mais que je n'avais pas pu utiliser dans les lors des pièces précédentes. C'était voilà, une façon de me sentir libre et de faire ce qui me passait par la tête, mais et de hors sujet, j'ai trouvé que c'était un thème en or et je l'ai développé, mais en travaillant est arrivé le bel ici. Bel ici, c'est une référence à Mallarmé. Lui, c'est le bel aujourd'hui. Et le bel ici, pour moi, c'est le théâtre, enfin, c'est l'endroit du théâtre. Voilà. Donc, voilà pourquoi les deux. C'est un espace dans lequel tout est permis. Enfin,
presque.
Disons que par rapport aux pièces précédentes, c'est une pièce où je me suis contrainte à ne pas avoir de contraintes thématiques.
Après la contrainte, tu avais besoin de liberté, quoi, en fait. Pas de plus de liberté.
Non, je dirais pas ça. Je dirais laisser aller les choses comme elles viennent. C'est sûr que la pièce précédente, c'était vraiment très long à travailler parce que c'était l'histoire d'un soliste, mais à six, et qu'on a mis beaucoup de temps avant d'arriver à partager cette partition de soliste. Et du coup, j'ai eu envie d'écrire très précisément et de distribuer des rôles aux interprètes qui sont bien moins nombreux, etc., etc. Et le bel ici, paradoxalement, on parlait de hors-champ, il y a le théâtre. Le bel ici, il est très petit sur le plateau. Il fait 6 mètres sur 8. C'est-à-dire que là, je me suis donné une contrainte d'utiliser un espace extrêmement réduit. Mais ça m'a donné beaucoup de liberté. Ça m'a permis de penser autrement l'espace.
Dans ce spectacle, on y trouve des textes de Claudel, Daniel Harms, Shakespeare, Sartre, Mallarmé, tu viens de l'évoquer à l'instant. Comment est-ce que tu as opéré le choix de ces auteurs et de ces fragments de textes ?
C'était des rencontres au moment où je travaillais les situations. Par exemple, à un moment donné, il y a des gens qui flottent sur le plateau et j'ai lu Le partage du midi et là, il y a une phrase de Claudel qui est apparue et qui correspondait exactement à ce qui se faisait, bah, pas exactement, mais qui pouvait non pas illustrer ce qui se faisait, mais donner une direction ou peut-être de l'espace à la personne qui regarde, un autre espace, parce que Claudel, par exemple, il apparaît comme un sous-titre de ce qui se passe. Mallarmé, il est dit. Il est dit. Il est complètement incompréhensible parce que Mallarmé dit, c'est vraiment une gageure. Et Sartre, ben, c'est un texte sur lequel je suis tombée, c'est l'existentialisme en hollandais. Et voilà, on joue beaucoup sur les langues et le langage dans cette pièce.
C'est-à-dire que là, dans ce petit jeu des correspondances entre la chorégraphie et l'écrit, c'est plutôt la situation scénique qui t'a amené à trouver un texte qui correspondait à cette situation scénique-là, sans forcément l'illustrer, hein, j'ai bien compris, mais
pas vraiment.
En tout cas qui avait un rapport.
Non, on parle beaucoup plus des mots. Bon, c'est-à-dire que pour établir une situation sur un plateau, évidemment qu'on le communique par des mots. Alors, si on parle de brouillard, voilà, il y a le mot brouillard. Et qu'est-ce qu'un corps va produire dans le brouillard, par exemple ? Et puis, il n'y a pas de systématique dans cette pièce. C'est pour ça que j'ai eu du plaisir. Je ne me suis pas donné
de contraintes systématiques à partir du texte et puis l'illustrer. Si parfois on parle de phrases et on les illustre littéralement. Voilà. Mais.
En tout cas, dans la manière dont le texte est donné au spectateur, et on retrouve quelque chose qu'on avait évoqué à l'instant avec Yves-Noël Genot, les modalités de cette présence du texte sont multiples, diverses. Le texte, il est parfois lu, il est parfois dit, il est parfois traduit avec une volonté justement de jouer sur le décalage des langages les uns par rapport aux autres.
Le décalage n'est pas volontaire. Je pense que dès qu'on essaie de traduire quelque chose, il y a du décalage. Alors comme c'est une pièce qu'on a beaucoup travaillée à l'étranger, déjà, il a fallu se faire comprendre, parce qu'on a montré des étapes au fil du processus de création. Donc il fallait être explicite, et du coup on ne pouvait pas parler français. Et le phénomène de la traduction, d'avoir à parler anglais, ou de traduire des choses, ou de faire apparaître des sous-titres en portugais, tout à coup, ça a généré quelque chose. Mais c'est finalement le plus important dans cette pièce, c'est ce qui est récurrent dans mon travail. C'est comment être sur un plateau, mais bon, c'est un peu une tarte à... Enfin, voilà, tout le monde se pose la question. Hein. Mais c'est-à-dire que quand je dis situation, ça peut être deux personnes qui se regardent très longtemps. Et qu'est-ce que ça peut ouvrir ?
Sur cette idée du décalage des langages, il nous apparaît évident qu'il faut traduire de l'anglais à l'espagnol, au français, à l'italien, etc., dans toutes les langues de la Terre.
Et on n'est pas très fort en langue.
En plus. Et est-ce que du coup, à contrario, le langage du corps est universel, lui ? Est-ce qu'un geste, il est compris partout ? Ou est-ce qu'il te semble qu'il y a des univers linguistiques comme ça de gestes ? Peut-être sur Georges Apex, je te voyais rire à cette question, peut-être si tu veux y participer aussi. Est-ce que le langage du corps est universel ?
En fait, le langage, est-ce qu'on cherche un sens ?
C'est le mot compréhension dans ce cas-là qui est difficile. Il faudrait s'entendre sur le. Est-ce que c'est que compréhension ? Est-ce que c'est prendre ensemble étymologiquement ou est-ce que c'est quelque chose de plus mental ou je sais pas. Mais effectivement, c'est direct. C'est assez direct le mouvement. Maintenant, le comprendre, il faudrait parler beaucoup, je crois, pour arriver à en ressortir des choses assez précises.
Parfois, on fait des choses très, très simples qui nous paraissent tellement claires. Et puis, on nous renvoie... on est déçus, quoi. On nous dit, mais c'est quoi ? C'est pas de la danse, ça ? Qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je crois pas qu'on danse pour dire quelque chose. Je crois pas.
Donc, il n'y a pas de territoire du geste, quoi. Il n'y a pas de frontière entre les gestes, a priori.
C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas de frontière du tout, même entre les gestes et la parole. Moi, je rêverais d'un corps continu, c'est-à-dire sans rupture. Mais en fait, on n'est pas comme ça. C'est-à-dire, notre éducation, la société dans laquelle on vit, nous conduit pas du tout à ça. Mais on peut imaginer, il me semble qu'on pourrait imaginer des corps qui sont sans rupture. C'est-à-dire, une voix, c'est... Voilà, c'est... Donc, si on part sur cet axiome-là, oui, le mouvement, c'est un langage. C'est le même. C'est pas un autre langage, c'est le même, ou la musique. Ou...
Mm-hmm. Et puis, le rapport des mouvements entre eux, surtout, enfin, qui fait que c'est un langage, c'est plutôt...
Martin,
Yves-Noël. Je pense qu'il y a une différence, des ruptures. Mais je partage cette même utopie, enfin je la vis comme une utopie, de pouvoir passer de tous les arts, quoi. Et là, on essayait de passer, en effet, de jouer à la sculpture, à la danse, à la musique, à l'architecture, de pouvoir passer d'un art à l'autre avec fluidité.
Mmh. Souvent, la rupture, elle se fait par le regard de l'autre, en fait, du spectateur, qui essaye justement de comprendre... Et quand on parle de hors-champ, pour moi, le hors-champ, il est beaucoup dans l'imaginaire du spectateur, enfin, dans ce qu'il peut... Mais ça, je ne sais pas. Je ne sais jamais ça.
Martine Pisani, on s'est croisés ce matin et en discutant à propos de tes spectacles, tu évoquais que tu tenais de nombreux carnets. Alors comment est-ce que justement ça se passe dans ces carnets? Est-ce que tu prends des notes avant les spectacles? Est-ce que la matière des spectacles est issue de ces carnets dans lesquels tu notes peut-être des sensations ou un regard sur le monde? Est-ce que c'est une notation du spectacle en cours de fabrication ou d'imagination?
Vous avez certainement des carnets, vous aussi, je vous vois écrire là.
Tout le monde des choses que tu dis, Martine, alors.
Bah, j'ai beaucoup de carnets, ouais, mais c'est une façon d'inscrire ce que je sens, mais je ne vais pas chercher dans le carnet. Je crois qu'avant un spectacle, il y a une forte intuition venant des expériences précédentes. Et il n'y a pas de volonté vraiment. Et oui, bien sûr qu'il y a une conscience. On essaye de savoir là où on est et puis là où on aimerait mieux être. Voilà. Parce que c'est pas ça?
Georges Apec s'approuve.
Non, mais je trouve que c'est très délicat parce qu'en même temps, on a envie de... Moi, je trouve, je sais pas, ça fait 20 ans que je fais ça. En même temps, j'aimerais maîtriser, préciser ce que je fais. Et en même temps, j'ai des envies d'ingénuité aussi, en même temps. Alors, les carnets, par exemple, ça va un peu à l'inverse de ça. Donc, je comprends que Martine dise, j'ai des carnets, mais je les lis pas pour travailler mes spectacles. Je vais pas chercher dans mes carnets mes spectacles.
C'est pas tout à fait vrai, parce que, tu vois, la phrase de Claudel, je l'avais notée, et bien sûr, je suis tombée dessus.
Et est-ce que tu pourrais imaginer la publication éventuelle de ces carnets en regard du spectacle, ou peut-être qu'ils soient présentés sous une forme d'exposition en dehors du spectacle, ou est-ce que c'est vraiment intime et privé?
Je crois que c'est pas très intéressant pour l'autre, à moins que il y ait un regard qui n'est pas le mien, qui prenne tout ça et qui en fasse quelque chose, quoi. Mais je serais pas capable.
Il y a un autre point commun que Martine a dit, le hors-champ pour moi est dans l'esprit du spectateur. L'esprit, tu as dit peut-être, hein?
Ouais, alors, j'ai dit un mot plus pompeux, l'imaginaire.
L'imaginaire du spectateur, c'est ça, exactement. Le hors-champ est dans l'imaginaire du spectateur, alors je ne sais pas ce que c'est. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui nous relie aussi, c'est qu'on sait que ça se passe à l'endroit du spectateur. On travaille donc sur la perception pour manipuler des choses de cet ordre, mais on a une humilité aussi de penser que c'est à cet endroit-là. L'étymologie du mot théâtre en grec, c'est l'endroit d'où l'on regarde, en fait, les gradins. Et maintenant, on pense plutôt, quand on dit théâtre, à ce qu'il y a sur scène. Mais nous, je pense qu'on pense à cet endroit-là du spectateur, ouais, c'est hors champ.
Oui, parce que par exemple, dans le travail, concrètement, la distance. Bon, moi, je travaille en frontal. Là, j'aimerais travailler autrement pour la suite. Mais voilà. Et la distance, la mesure, quoi, le nombre de mètres qu'on a de la scène à la salle, c'est toujours à régler. Mais c'est vraiment concret. Il y a aussi la distance de jeu, c'est-à-dire la distance. Il y a la distance au sens mécanique, mesure, et puis la distance au sens de pas trop agresser l'autre. Enfin, en tout cas, d'être et de permettre à l'autre de te regarder et de... Voilà. C'est énorme, quoi. Enfin, pour moi, le travail dans le spectacle, il est vraiment là.
Martine, on a évoqué tout à l'heure la notion de fragment. Je crois que c'était à propos du travail de Sabine, mais on peut aussi, tout aussi bien évoquer cette notion de fragment, d'usage et d'unification des fragments pour évoquer ton travail, un travail sur le motif, sur des morceaux de texte, une hétérogénéité des matériaux. Est-ce qu'il s'agit de fragments d'un langage et éventuellement de fragments d'un langage amoureux?
Franchement, dans le travail, c'est vrai, le bel ici, c'est aussi établir d'autres rapports entre les gens. Bien sûr qu'il y a il y a le terme amoureux, si on veut, parce que quand les gens avec qui je travaille, j'aime bien, je les aime beaucoup. Mm-hmm. Et puis, voilà, je me sens bien avec eux et j'espère qu'eux aussi. Mais la notion de fragment dans cette pièce-là, moi, j'ai beaucoup travaillé à ce que ces fragments gardent leur autonomie, paradoxalement, pour renforcer quelque chose.
C'est justement toute la question du langage, hein, l'autonomie des fragments et, ouais, et puis en même temps l'unité du sens.
Malgré moi, la pièce, elle a pris une direction, je dirais pas un sens, mais une direction et ça s'est resserré, je sais pas. Mais c'est vraiment en gardant l'entité de chaque chose que ça s'est fait. C'est pas en essayant de trouver l'endroit qui va faire que ça va avoir du sens.
Josette Pisani, pour conclure cette discussion autour des écrits de la danse, peut-être quelques mots à propos de la saison de Marseille Objectif Danse qui se profile. Un démarrage en fanfare avec cette programmation qu'on est en train de découvrir là, mais qui va certainement se poursuivre tout au long de l'année. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir prochainement? Et puis, parle-nous un petit peu de l'avenir de mode. Rapidement.
La saison a commencé bien, bien intensément, comme tu le disais. On espère qu'elle va se poursuivre, parce que une des originalités qui nous concerne, c'est que on est chaque année mis en évaluation, je dirais, puisqu'on passe dans des commissions, on n'a jamais assuré d'un budget. Donc lorsqu'on démarre l'année civile, c'est en janvier, on se jette un peu dans le vide, en n'ayant absolument aucune certitude de budget qui vont venir. Alors, c'est pas pour ça qu'on fait ça, mais tu dois le savoir, la saison, nous, elle se construit au trimestre. C'est-à-dire qu'au départ, c'est pas pour faire face à des problèmes de budget, mais en tout cas, ça arrange bien les choses. C'est aussi pour se laisser des libertés, de pouvoir intervenir et laisser des petits poumons d'air comme ça, en invitant des pièces qu'on voit, que je peux voir, et puis inviter tout de suite, etc. Donc sur ça commence un peu mal, parce qu'en décembre, on risque de repousser un spectacle par rapport à un problème technique à la Friche, d'une salle de la cartonnerie, justement, qui pose problème. Ensuite, on va faire un gros renfort qui a été prévu en juin, mais qu'on a repoussé pour d'autres raisons, c'est pas des raisons budgétaires, mais autour de John Cage, à la fin janvier, début février. Et là, c'est en partenariat avec d'autres partenaires, le CIPM, le FID, le GMEM, des vieux partenaires aussi de Marseille Objectif Danse. Et ensuite...
Qui ont tous 20 ans, c'est curieux.
Oui, c'est bizarre. Ouais. Non, c'est pas bizarre, mais c'est drôle.
Voilà.
Et
il a dit, quand on aime, on a toujours 20 ans.
Ah, c'est joli.
Et puis, en mars, la seule chose sûre au niveau du spectacle vivant, c'est en mars, Stéphanie Aubin. Mais je n'ai encore rien bouclé sur le futur. Quant à l'avenir, on se pose de sérieuses questions, bien sûr, sur l'avenir de... Mais c'est chaque année, donc depuis 20 ans. Donc, je ne peux pas parler de l'avenir de Marseille Objectif Danse. On en parlera dans une conférence de presse, je pense, en novembre, qu'on va faire. C'est pas nous qui avons les clés en main de l'avenir.
En tout cas, bon courage pour la suite de cette saison, Josette.
Merci beaucoup.
Merci à tous d'avoir participé à cette discussion. Georges Apex, merci. Yves-Noël Genot, Sabine Maché, Martine et Josette Pisani.
Merci.
Merci. Moi, je remercie tous les artistes qui sont là. Parce qu'ils ont fait aussi l'histoire de Marseille Objectif Danse.
Je rappelle juste que la prochaine émission spéciale autour du Festival Actoral en direct de Montevideo, ce sera le 11, un plateau avec Hubert Collat et de nombreux invités. À la technique aujourd'hui, c'était Sébastien. Et restez à l'écoute de La Grenouille à 19h. Beggy, beggy, bang. Sommet.